affabulé.
C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
Wakarimasu, Jan.
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour D'étoiles plein les yeux, votre magazine de cinéma sur Transistor. Cette semaine, c'est du côté des Éternels de Jazanke que nous nous tournerons et puis nous irons voir également le festival des reflets du cinéma ibérique et latino-américain organisé par le cinéma Le Zola. Ça sera en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, la toile, c'est donc Les Éternels, Ash is Purest White dans son titre original. Les yeux, ce sont ceux de Maë et Félix. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Rémi.
Quand 我不是江湖上的人，现在你就是江湖上的人。我再问你一次，这个枪，
我的。
Voilà, vous venez d'entendre la première partie d'une bande-annonce qui revient aussi sur la première partie de ce film en 2001 où la jeune Kiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale dans la ville de Datong en Chine. Et donc un drame survient après un premier tiers de film, on entend ces coups de feu. Et les deux amants vont se retrouver séparés. C'est ce personnage de Kiao donc qu'on va suivre à travers trois époques en fait qui vont se succéder. On la retrouve également en 2006 où elle retrouve Bing et puis où elle comprend qu'il lui est perdu avant des retrouvailles finalement vers 2015-16, dites-moi si je me trompe.
Ça doit être ça. Hein.
Voilà, c'est ce personnage, donc on démarre dans la pègre chinoise et puis petit à petit par touche comme ça, on voit la Chine évoluer, ce personnage traverser les 20 dernières années de l'histoire chinoise pour ce film qui est donc le portrait d'un beau personnage, mais aussi celui d'un pays en pleine mutation. J'essaie de résumer de façon un petit peu synthétique un film riche, mais tout de suite, je me tourne vers vous. Maë, Félix, qu'est-ce que vous avez pensé de ces Éternels ?
Je t'en prie, Félix.
Battez-vous.
Alors évidemment, c'est toujours un film, des films magnifiques que nous offre Jazanke, avec toujours ce contexte, ce sous-texte social très très puissante, très très marquée, avec cette force qu'il a de produire, on va dire, un film de critique sociale, mais qui ne soit pas une critique par le haut, une critique des institutions, mais qui parte des individus, des petites gens. Et de ce point de vue-là, c'est un film très très réussi. Même si, pour ma part, j'ai eu, on va pas dire quelques déceptions, mais j'aurais aimé un peu plus d'innovation esthétique, parce qu'il nous avait beaucoup habitués dans les films précédents à vraiment des sortes de fulgurances esthétiques. Je pense au dernier film, Par-delà les montagnes, où on avait ces trois périodes dans le temps qui étaient filmées avec trois caméras différentes, avec de la pellicule, puis des numériques, puis du numérique en extrême qualité, qui vraiment sublimait le film. Et là, je trouve qu'il y a un peu moins d'innovation de ce point de vue-là.
Mais...
Oh, moi, comme d'habitude, j'ai pas vu les derniers films, du coup, je ne pourrais pas faire de comparaison dans son cinéma.
Tu ne vivras que de plus beaux moments lorsque tu auras la chance de les voir.
Voilà. Ouais, en fait, pendant 2h30, on suit ce personnage-là. On le suit de manière très proche, finalement. On est coincé avec elle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, en fait. On la suit dans sa période de... heureuse, quoi, on va dire. Puis on assiste à sa chute qui survient d'un coup, comme le disait Rémi, avec ses coups de feu qui sont tirés. Et oui, on voit tout. On voit la Chine, en fait, à travers ses... En fait, je sais pas si on voit à travers ses yeux à elle, j'allais dire ça, mais Non, on le voit à travers la caméra, elle, on la suit, et je suis pas sûre qu'elle porte le même regard que la caméra sur le monde qui l'entoure. Mais c'est sûr que, voilà, ce qui en ressort, c'est une sorte de grande...
T'as l'air un peu dubitative.
Je suis dubitative, j'allais dire mélancolie, mais en fait, je veux pas utiliser ce mot-là. Donc en fait, je sais pas.
Mais alors parlons justement de... Enfin, on a un peu tout et rien dit du cinéma jazz-anglais quand on dit qu'il s'attache justement à la critique de Libé parle d'un nouveau roman national, il y a quelque chose de ça, d'essayer de d'écrire une histoire contemporaine par le bas de son pays et de dessiner la trajectoire d'un pays à travers la trajectoire de ses personnages, parce que finalement le personnage incarné par Cao Tao ici et qui est un peu dans la suite du personnage ou en tout cas un miroir de celui qu'elle incarnait dans Au-delà des montagnes, c'est peut-être tout simplement la Chine elle-même qui est marqué par le temps, par l'histoire, par cette modernité galopante et qui finit par prendre le dessus de cette modernité mais en garde aussi des séquelles irréparables et voilà, il y a quelque chose de magnifique dans la délicatesse avec laquelle il arrive, comme tu le disais Félix, à tenir un propos aussi vaste à partir de détails aussi microscopiques et en creusant vraiment jusqu'au dernier détail de ce personnage, il y a cette scène très très belle où d'un coup on a la tentation du rêve qui apparaît au milieu du film et là pour le coup je trouve qu'il y a quelque chose d'une magnifique innovation scénaristique dans le sens où cette scène est complètement gratuite, ne s'attache à rien.
Celle du train,
puis de l'OVNI. Et y a quelque chose vraiment d'un portrait tout en finesse, du refus du discours très académique qu'on pourrait attendre, et je trouve qu'il arrive à toujours se renouveler dans cette peinture-là, film après film. On sent aussi, film après film, les années qui passent, et certaines illusions peut-être remplacées par d'autres aussi. De temps en temps, des plans extrêmement éloquent, je pense à ce personnage à la fin du film qui promène ses espoirs déçus dans un fauteuil roulant au milieu d'un immense stade en construction, et on a juste ces deux petites fourmis brinque-ballantes qui avancent lentement au milieu d'une espèce des arcades en béton inachevées, comme si elles étaient inachevées pour l'éternité, mais jamais c'est pontifiant, et c'est toujours très très beau et très très pudique. Je trouve
pudique et souvent très subtil. Il y a pas du tout, c'est pas du tout un, c'est, encore une fois avec ce film, c'est pas du tout un cinéma qui cherche à nous faire nous apitoyer sur le sort des gens, peu importe leurs conditions, peu importe leur misère. Et ça rejoint ce que tu disais, Maï, sur le point de vue. Finalement, de quel point de vue on suit? On suit toujours le point de vue du cinéaste et il adopte jamais, on va dire, un point de vue global sur ce qui est en train de se passer.
C'est sûr qu'on s'attache peu aux personnages.
Elle
est dure.
Que... Elle aussi. Elle est pas si attachante que ça.
Non, et pourtant elle pourrait. Elle en a tout le potentiel, je trouve. Mais c'est vrai que la caméra ne nous fait pas nous attacher à elle. C'est juste qu'on la suit, on est coincé avec elle, on est aussi désabusé qu'elle, je trouve, au bout d'un moment. On est coincé dans ce film un peu comme la Chine est coincée dans le cours du temps, quoi. Non, c'est vrai. Non.
Oui, mais et tu parles de mélancolie, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'une mélancolie, et c'est là où il y a quand même une tu parlais, Félix, du travail de Jiazhenke sur les images, les cadres, etc. Lorsqu'il réutilise tout au long du film des rushs de précédents films, le film lui-même d'ailleurs est une variation sur deux personnages d'un film tourné il y a longtemps, et entre autres toute la partie centrale du film autour donc du chantier du barrage des Trois Gorges, où s'intercalent tout le long du film des rushs qui ont été tournés à l'époque avant que tout ce paysage soit englouti, et quand même porteur d'une espèce de mélancolie devant la fuite en avant permanente de ce pays. Il y a quelque chose de ça, je trouve, et sur ce que tu disais, Maëlle, cette question du point de vue, on n'est pas presque dans le point de vue du paysage, quelque part, qui est traversé par ces trains en permanence tout le long du film, comme ces trains qui vont toujours plus vite, qui sont toujours plus modernes, rutilants, brillants.
Mais qui restent des trains où on fait des rencontres.
Effectivement, mais dans une accélération comme ça.
Qui restent des trains, surtout qui amènent des touristes et des travailleurs dans les provinces périphériques. Et pour siniser les provinces réfractaires.
Yes. Et puis où l'on ne rencontre finalement que des illusions aussi. Ou des illusions portées par des illusionnistes. Hein. Elles en restent belles, ces rencontres. Mais... De la même façon que dans Au-delà des montagnes, on avait vraiment le portrait d'une génération chinoise qui transmet des illusions brisées à la suivante. Là, la génération suivante n'est pas là, mais par contre, on retrouve de la même façon quelque chose de très très cruel sur cette génération des années 90, portée toujours par le regard de cette immense actrice, et il faut en parler, du jeu incroyable de Cao Cao dans ce film.
Oui, c'est vraiment étrange. Elle a un air très neutre, en fait, pendant tout le film. Et pourtant, effectivement, on croit à son personnage et on voit en fait transparaître ses émotions alors qu'on a l'impression que son visage ne bouge pas. Mais c'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec le terme mélancolie, c'est qu'il y a une sorte de poésie et de résignation, mais sans la déplorer, ce temps qui change, ou même ce personnage qui dit adieu, oui, à ses belles années, au monde dans lequel elle existait, dans lequel elle rayonnait, sans s'y attacher et sans le regretter, j'ai l'impression. C'est pour ça que le terme mélancolie me gêne, c'est que le personnage reste neutre. Justement, même dans ses belles années, bien sûr, elle le sait que ce sont ses belles années, on voit qu'elle est plus heureuse à ce moment-là qu'à la fin, mais son visage reste le même. Et du coup...
D'autant plus qu'elle parvient d'une certaine façon à reconstruire cet univers temporairement perdu. Non seulement à le reconstruire, mais à en devenir maîtresse. Parce que elle, qui était une nouvelle entrante dans la pègre et qui n'en entre que pour mieux détruire ce qui devrait être le cours de sa vie, c'est aussi par là qu'elle finit par retrouver sa rédemption. Bon, c'est peut-être un peu cryptique pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film, mais on veut pas spoiler. Mais effectivement, et encore une fois, c'est ce qu'on disait avec Félix, les choses sont quand même éminemment subtiles, rien n'est noir ou blanc. Et d'ailleurs, le titre anglais lui-même, c'est pour ça que je le précisais au départ, la blancheur la plus pure est celle de la cendre. Il y a peut-être, enfin, toute la subtilité de Jazanke peut être résumée par la maxime que c'est il y a cet attachement au détail qui est porté, oui, par ce jeu magnétique. Oui. De cette actrice.
C'est d'ailleurs l'actrice fétiche de Jia Zhang.
Et son épouse, au demeurant.
Ah.
Et son épouse.
Mais oui, après, et c'est aussi ce qui me plaît énormément dans son cinéma, que ça soit par les visages récurrents qu'on y trouve, mais aussi par cette démarche qu'il creuse patiemment, c'est qu'on est vraiment face à un cinéaste, bon, qui est vraiment l'un des plus grands cinéastes au monde aujourd'hui, mais qui fait partie de ces gens qui construisent une œuvre, qui échafaudent les films les uns sur les autres, et où il y a une cohérence dans son travail depuis 20-25 ans qui est vraiment admirable. Et c'est de cette façon que Les Éternels peut aussi apparaître un petit peu comme une somme, comme un retour sur lui-même, dans la mesure où justement il reprend des plans d'un certain nombre de films, il mélange un petit peu tout ça de façon assez subtile, parce que on s'en rend pas forcément compte. Enfin, je veux dire, moi, il a fallu que je le lise pour le savoir. À voir le film, on se dit pas que ça a été tourné à 15 ans d'écart, les différents plans. Mais ça participe aussi à cette impression de réalisme et de justesse.
Le titre me fait penser, enfin, je sais pas si vous avez noté pour les couleurs, mais enfin, noté quoi. Enfin, moi j'ai été marquée par le fait que ce soit beaucoup plus coloré au début qu'à la fin, et que je trouve qu'on va justement vers le, ouais, vers le terne et vers le noir et blanc. Donc finalement, je me dis peut-être que c'est la cendre qui apparaît, on brûle ce qu'il y avait au début. Enfin bon, là, je m'emballe. Mais j'ai, enfin voilà, je tenais à noter que les couleurs étaient cool.
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme de la cendre qui se dépose sur l'image petit à petit, jusqu'à cette dernière image qui finit par se bloquer sur un écran de vidéosurveillance, comme une annonce de ce qu'est la Chine à la fin du film, vidéosurveillée de toutes parts, et où le personnage finit par se figer dans le flou comme ça. C'est une admirable façon de terminer un film.
Oui, c'est une belle fin.
Bon, est-ce qu'on conseille Les Éternels de Jazanke?
Oui.
Moi, sans hésiter, oui.
Moi, sans hésiter une seule seconde, et puis il faudra en profiter, bien sûr, pour voir ou revoir tout le reste de sa filmographie.
Oui. Si je peux ajouter un dernier truc, je le conseille, mais je conseille aussi tout le reste.
Oui.
Avec.
Et n'hésitez pas, d'ailleurs, à écouter l'émission dithyrambique que nous avions consacrée à Au-delà des montagnes. Projecteur cette semaine sur les 35e reflets du cinéma ibérique et latino-américain. Ça commence aujourd'hui au cinéma Le Zola à Villeurbanne et puis un petit peu ailleurs. Et je me trouve donc au bureau des festivals du Zola avec Olivier Kelonek qui préside le festival. Bonjour.
Bonjour, qui le dirige en fait, plus précisément, voilà.
Et donc c'est reflets. Alors qu'est-ce qui va se passer à Villeurbanne cette année et puis pour la 35e fois?
Alors depuis 35 ans à Villeurbanne, au cinéma Zola, on essaie de valoriser la culture latino-américaine, espagnole et portugaise. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans un registre exotique. On essaie vraiment de renvoyer le reflet de cette année de 12 pays. Donc avec une grande variété de films, que ce soit de documentaires, de la fiction, un petit peu d'animation. Et l'idée, c'est vraiment d'offrir une vue d'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, voilà, pour des cultures qui ne sont pas toujours représentées au cinéma en France et dans la région lyonnaise. Donc on essaie de mettre en évidence des films en avant-première, donc c'est-à-dire qui ont vocation à sortir dans les mois à venir, ou des films plus confidentiels, plus inédits, qui n'ont pas forcément de distributeurs français, mais qui n'en demeurent pas moins des films de grande qualité.
Alors on voit donc dans la programmation riche qui s'étend sur les deux semaines à venir, donc il y a effectivement des avant-premières, des réalisateurs qui vont venir présenter les films, et puis voilà, un certain nombre de temps forts du festival. Je vois entre autres dans l'édito un film fleuve qui sera projeté cette année.
Eh oui, c'est un film fleuve. Alors souvent, les gens écarquillent les yeux en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un film qui dure près de 14 heures, mais c'est pas possible !» Et moi, je redis à chaque fois, mais écoutez, vous êtes quand même capable de voir des séries. Je pense qu'une saison, aujourd'hui, ça dure justement entre 13 et 14 heures. Et on voit plusieurs saisons en plus. Voilà, donc c'est pas la... Enfin, le film interpelle par sa durée. Mais moi, avant tout, je pense que c'est un des films de l'année. Et l'événement... on pourrait croire que c'est cette durée qui l'amène, mais en fait, c'est surtout un film vraiment extrêmement fort, réalisé par un Argentin qui s'appelle Mariano Linas, qui n'est pas tout à fait un inconnu, puisqu'il était le scénariste du film El Presidente de Santiago Mitre. Il a fait d'autres films... par ailleurs, et c'est surtout un sacré contre-pied au binge-watching, c'est-à-dire à la consommation de séries notamment. Et donc c'est, voilà, il propose une expérience de cinéma sur la durée, et de se dire mais qu'est-ce qu'on fait en fait devant un écran Qu'est-ce que ça produit chez un spectateur? Voilà, on grignote chez soi une série de 14 heures quand on propose un banquet de 14 heures et c'est une vraie célébration, un moment fort du festival puisqu'il, comme vous le disiez, il s'étalera du 16 mars au 27 mars. Donc, en effet, il y a 6 épisodes. Voilà, c'est-à-dire que c'est 6 genres cinématographiques représentés à travers 4 femmes qui interprètent tous les rôles de ces genres. Et à la fin, voilà, on a un portrait de 4 femmes et on a revisité l'histoire du cinéma, ce qui n'est pas une mince affaire.
Sentate. Contamine.
No sé, que una noche tocaban los dos en un teatro, en el mismo pueblo, un pueblito chico de provincia.
Uh-huh. Sí.
Y que no se conocían, y que él te oyó cantar y se enamoró. Y te esperó a la salida de tu concierto. Que era una noche de lluvia, una tormenta terrible. Y que llovía tanto que cuando terminaron el show, bueno, cada uno su show, no podían ni salir del teatro. Y que se fue la gente y ustedes se quedaron esperando en la puerta del teatro a que pasara la lluvia. Se quedaron hablando como 3 horas, la lluvia no paraba. Bueno, y en esas 3 horas se enamoraron.
D'autres temps forts, des avant-premières peut-être aussi dans ce festival?
Oui, alors il y a beaucoup d'avant-premières. Toutes les soirées sont peuplées d'avant-premières et même de films inédits. Des films qui sont extrêmement riches. Je pense au film d'ouverture, qui est un film argentin également, de Carlos Sorin, qui nous avait surpris avec son œuvre Historias Minimas, il y a quelques années. Il revient donc avec un film qui s'appelle Joël, qui va sortir en juin. On est les premiers en France à le diffuser. Et c'est vraiment un honneur de le faire parce que c'est un film très très fort, très sensible et qui dresse le portrait de l'arrivée d'un enfant qui a été adopté par un couple en Patagonie et donc le bouleversement que ça occasionne auprès de cette communauté de personnes qui sont habituées à ce qui n'est pas vraiment d'aspérité. Et c'est aussi le passage pour un couple du statut de parents adoptants au statut de parents en fait, et c'est un portrait vraiment très très fort, très émouvant. Et je pourrais aussi parler du film de clôture directement, qui est un film réalisé par quelqu'un qui n'est pas inconnu pour les cinéphiles. C'est Ishar Bolain qui revient avec son dernier film, sachant qu'elle tourne déjà le suivant. Son film s'appelle Yuli. Donc c'est un film qui traite du portrait d'un personnage qui souhaite danser au ballet de Londres et qui a grandi donc un peu dans la misère à Cuba et qui veut sortir un peu du carcan dans lequel il se situe, notamment au niveau de ses parents et de la pauvreté, quoi.
Tú tienes algo que no es habitual en otros niños. Un chorro de talento natural que se te ve a la legua.
Eres un desastre. Y huele fatal.
Papi, yo no quiero ser bailarín.
Si tú no bailas, tú y yo vamos a bailar después de la casa.
No nos vamos a volver a encontrar otro niño como este.
Pedro, déjalo, que me lo vas a matar.
El English National Ballet te ha ofrecido un contrato.
Es igual si vuelvo a bailar, porque lo odio. Perdido mi vida por culpa del cabrón valiente.
Donc Donc voilà, c'est un film aussi très beau. On a d'autres films événements, donc le dernier film de Jaime Rosales qui s'appelle donc Petra. On a un film péruvien. Enfin, en fait, tous les soirs, il se passe quelque chose au Zola, sans parler des journées qui sont aussi assez denses, où on peut également retrouver des documentaires. Donc, il y a une entrée en puissance du documentaire cette année. Mais voilà, j'aime toujours à rappeler que le documentaire, c'est pas un sous-genre cinématographique, c'est un film. Voilà, il y a des gens que j'entends encore dire oh, le documentaire, mais moi, je préfère les vrais films. Ben, moi je pense que ces gens-là se trompent, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas vu des documentaires récemment au cinéma. Pour moi, c'est un genre qui a beaucoup évolué ces dernières années, qui prend une part de plus en plus conséquente dans la programmation des salles de cinéma comme les nôtres, c'est-à-dire des salles de cinéma art et essai. Et je trouve que c'est intéressant de, ben, parfois de savoir se jeter un peu et de mettre de côté ces représentations habituelles. Parce que pour moi, le cinéma est là pour ça. Il est là pour refaire lien avec la société, pour réinvestir certaines choses, et puis pour et notamment au niveau des festivals, pour renouer avec le contact, en fait, avec les échanges. On n'est pas là pour consommer du cinéma, mais on est aussi là pour pour faire citer en fait le temps de quelques heures, quoi.
Et voilà, et donc dans le festival, donc c'est reflet du cinéma ibérique et latino-américain, il y aura une compétition déjà.
Une compétition avec 9 films, donc 9 films inédits, mais en tout cas c'est le public qui est le seul jury.
Voilà, et puis 2 expositions et puis quelques à côté aussi à ce festival.
Oui, voilà, alors on a plaisir aussi à ouvrir les reflets, il n'y a pas que du cinéma, il y a aussi une section regard, donc qui met également en évidence des courts-métrages et des documentaires. Donc ça, c'est dans différents lieux culturels de Lyon, et donc des expositions aussi, donc 2 expositions et plein d'autres choses. En fait, il y a des fiestas aussi à Hecho en México, il y a quelque chose de tango de soie aussi avec de la milonga. Enfin voilà, il y a beaucoup de lieux partenaires comme ça qui viennent se greffer en fait à ce projet qui est quand même très reconnu aujourd'hui en France.
Et voilà, donc ça commence ce soir pour ces 35e reflets du cinéma ibérique latino-américain. On pourra en apprendre plus, bien sûr, sur le très beau programme nouveau visuel du festival ou sur le site www.lesreflets-cinema.com. Merci beaucoup, Olivier Kelenek, pour avoir répondu à mes quelques questions. Et avant de se quitter, quelques petits conseils de sortie au cinéma pour cette semaine, la sortie de la semaine qu'on vous conseille. C'est évidemment le dernier film de Xavier Dolan avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Suzanne Sarandon et bien d'autres. Ça sort donc aujourd'hui et ça s'appelle « Ma vie avec John F. Donovan ». Synopsis, 10 ans après la mort d'une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance qu'il avait entretenue avec cet homme, ainsi que l'impact que ces lettres ont eu sur leur vie respective. Le jeune prodige canadien qui signe donc son nouveau film cette semaine.
We know how things started. He answered one of your fan letters. And then an unlikely correspondence began, etc, etc. Why don't you just back it all the way up to how things started with you and John F. Donovan?
I had just turned 11. Kids at school were mocking me for being a new guy.
Rupert! Sorry.
My mom and I, we were barely speaking anymore. All my dreams had disappeared. The only one that had survived was John.
Événement inratable cette semaine, la venue du grand Jerzy Skolimowski à l'Institut Lumière. Ça sera mardi prochain pour toute une soirée qui commencera à 17h30 avec le bateau phare, le capitaine donc d'un bateau phare ancré au large des côtes de Virginie, qui recueille à son bord des gangsters en fuite pour un huis clos captivant. Et puis à 20h, Travail au noir, 1982, où 4 maçons polonais viennent à Londres travailler au noir, donc. Et Novak apprend le coup d'état en Pologne, il tait la nouvelle à ses compatriotes. Voilà, c'est le film le plus connu, le plus récompensé de Skolimowski, et ces 2 très grands films seront donc présentés par le réalisateur, les 2 films récemment restaurés, pour cette soirée donc mardi prochain, 19 mars, à l'Institut Lumière.
No flights home until God knows when. « Why did he really choose me?
No! Okay, Ichel! Go back to Poland! You commies!
Now I cannot delay it any longer. I must tell them the truth. What has happened in our country?
Jeremy Irons. Moonlighting.
Film du patrimoine à revoir cette semaine. Enfin, Le silence des agneaux de Jonathan Demme sera projeté par le ciné-café Aquarium jeudi 14 mars, demain donc, à 20h45. Alors, pour celles et ceux qui ne se souviendraient pas de cette histoire effrayante, il s'agit d'un psychopathe qui sème la terreur dans le Middle West en kidnappant, en assassinant de jeunes femmes. Et Clarice Starling, jeune agent du FBI, est chargée d'interroger l'ex-psychiatre Hannibal Lecter. Psychopathe redoutablement intelligent, porté sur le cannibalisme, Lecter n'accepte de l'aider qu'en échange d'informations sur la vie privée de la jeune femme. Et un lien de fascination et de répulsion s'établit alors entre ce très très grand thriller, donc Jonathan Demme, réalisé en 1991, qui sera projeté pour le ciné-club La Soif du Mal, du ciné-café Aquarium, ce jeudi à 20h45.
Tell me what you see.
Ortiz, he's got real physical strength, combined with an older man's self-control. He's cautious, precise, and he's never impulsive. He'll never stop.
Oh, Clarice, your problem is you need to get more fun out of life.
Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head.
What did you see, Clarice? What did you see?
Enfin, on ne se quitte pas sans un dernier petit conseil, c'est avec notre ami Flavien Poncé, des Cinéma Lumière.
Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'un film franco-turc qui s'appelle Cybèle, une co-réalisation d'un réalisateur français, d'une cinéaste turque qui avait été déjà les réalisateurs de Nour. C'est le portrait d'une jeune femme muette, habitante de la Turquie reculée, qui ne communique, mutique donc, que par la langue sifflée ancestrale de sa région. C'est le portrait de cette jeune femme qui est déjà une actrice magnifique et qui est doublée d'une comédienne remarquable. L'histoire en même temps d'un trouble, puisque dans le confort de sa communauté, elle va être confrontée à un étranger. Et c'est avec l'arrivée de cet étranger qu'elle va se frotter à l'altérité et devant cette altérité connaître l'émancipation avec toute une question, tout un questionnement très intelligent et très sensible sur la communication. Comment on, alors qu'on a l'habitude de communiquer avec ses proches, on est finalement plus étranger à eux qu'avec des personnes qu'on rencontre, qu'on découvre et qu'on apprend à connaître. C'est une très très belle fable sur cette émancipation-là, sur une émancipation féminine dans le cadre de la Turquie reculée. Et ça s'appelle Cybèle, c'est un film magnifique.
Ok, soldier. I'm coming out. Ok, soldier. I got no gun and I'm coming out. Soldier.
Vous écoutiez D'étoiles plein les yeux, une émission de Rémi Cerda avec cette semaine Maë Burla et Félix Barancy. On se retrouve dès la semaine prochaine, on parlera du documentaire que sort Nanni Moretti. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous dans les salles obscures.
Come down.